RMC, 19h20, l'After Tour.
Christophe Cessieux.
Bonsoir à tous, et oui, Cocorico, un Français déjà en jaune, un Français déjà victorieux d'étape. Dès la première étape de ce Tour de France, Romain Bardet a affilé le frisson à tous les amoureux de cyclisme en France. Et on va évidemment revenir durant cette heure dans l'After Tour sur la magnifique victoire de Romain Bardet qui nous aura régalé comme il nous régale depuis des années maintenant. On va évidemment en parler, on va aussi revenir sur les autres prestations des coureurs français qui ont été plus en difficulté, notamment David Godu ou encore Lenny Martinez. Est-ce qu'il faut s'en inquiéter? Et puis, on va aussi revenir sur la première bagarre pour le classement général qui n'a pas eu lieu. Ben non, Pogacar, Vingegaard se sont observés de loin et n'ont pas fourni le moindre effort pour aller essayer de tester l'autre. Est-ce une déception ou les circonstances de course ont fait qu'il ne fallait pas s'attendre à autre chose? Eh bien, on en parle durant une heure avec toute l'équipe de l'Intégral Tour et de l'After Tour. Cyril Guimard, évidemment, avec nous, Jérôme Coppel, Pierre-Yves Leroux, ils sont tous là. Bonjour les garçons.
Bonsoir. Salut.
À peine remis nos émotions.
Ah ouais, bah oui, parce qu'on a vécu quand même. Cyril, le bouton.
Oui, j'ai appuyé sur le bouton de façon à pouvoir vous parler.
C'est déjà bien.
Eh bien, oui, beaucoup d'émotions aujourd'hui et beaucoup de plaisir.
Oui, on va l'entendre dans la prod.
Ah oui, bah, bravo.
Ah bah oui, non mais c'est vrai en fait. On a l'impression que le druide est un homme sans cœur.
Un gros dur.
Mais
comme
pas du
ça,
tout.
Mais
pas
un,
du
c'est
tout.
Un petit chamallow.
Voilà, tu as rajoute.
Je me
et en plus, tu le sais, vieux vicieux.
Ah mais je sais, j'adore te faire pleurer. Je t'avais fait pleurer il y a quelques années.
Vas-y, continue.
Lors de ces championnats du monde où Julien Alaphilippe.
Bon, il va falloir que j'y mette un pain à la pointe du menton pour que les choses se normalisent.
Il aime pas qu'on sente ses points faibles. Arnaud Souk nous a également rejoint. Il descend de sa moto. Ouais, ça fait un moment qu'il est descendu quand même. Il faisait bon.
Je d'en être descendu parce qu'on a fait le calcul avec Marco aujourd'hui. On a passé 6 heures sur la moto quand même.
6 heures sur la moto.
Ben, ouais. On est monté à 11h45 et l'étape est arrivée à 17h45. Ah bon, ça va. Il y a pire hein, comme travail, hein, mais il faisait un peu chaud quand même.
Il faisait un petit peu chaud, ouais. On s'y attendait pas, on s'y attendait, on savait que
ça allait être chaud. Honnêtement, il y a quand même un moment où on a vu des thermomètres à 36-37 degrés et ça a vraiment été un vrai sujet aujourd'hui parce que pour en avoir discuté avec des coureurs, des directeurs sportifs à l'arrivée, c'est vrai que voilà, c'est évidemment quelque chose qui a joué aujourd'hui pour beaucoup de coureurs qui ont connu des défaillances.
Très bien, on va revenir sur tout ça et puis on s'intéressera tout à l'heure en fin d'after à l'étape de demain avec la côte de San Luca qui fait peur à beaucoup de monde. Jérôme Coppel qui est en train de plancher, vous savez, c'est sa spécialité. Il étudie le parcours des étapes et là je peux vous dire qu'il bosse. Je lui ai dit il y a 10 minutes qu'il allait devoir faire ça, du coup il est un peu à la bourre.
Ah mais ça fait longtemps qu'on le connaît le parcours du Tour, ça fait pas 10 minutes.
Oui, mais ça fait longtemps qu'il a il pas bossé aussi Jérôme.
Moi j'ai appris avant hier ma sélection pour le Tour, alors j'ai pas eu le temps de tout préparer. Hein.
Tu étais dans la présélection quand même.
Ouais, dans la présélection, mais on sait jamais. Hein. Jusqu'au dernier moment, on peut se faire éjecter facilement dans cette Dream Team RMC.
Ah, oui.
L'After Tour sur RMC et donc ce grand frisson, ce grand moment d'émotion vécu tout à l'heure lorsque Romain Bardet a remporté la première étape de ce Tour et a revêtu le premier maillot jaune de sa carrière à 33 ans, lui qui dispute sa dernière grande boucle, une étape qu'il a remportée de manière magistrale grâce notamment à l'un de ses équipiers, Frank Vandenbroeck. On en parlera également de ce petit jeune belge qui a été énorme et à qui Romain doit l'essentiel de sa victoire, pas l'essentiel mais une partie de sa victoire. C'était donc tout à l'heure, précédemment dans l'Intégral Tour. C'est parti.
Précédemment dans l'Intégral Tour sur RMC.
Bonjour à tous, c'est un plaisir de vous retrouver évidemment pour une nouvelle édition du Tour de France, le Tour de France 2024, 111e du nom. C'est la première fois que le Tour de France prend son envol depuis l'Italie et nous sommes actuellement à Rimini au terme de la première étape qui s'était lancée tout à l'heure de Florence, cette magnifique ville, donc en direction de Rimini, 206 km pour cette première étape.
Et Romain Bardet qui quitte à l'instant le peloton, il était toujours là. Non, par l'avant, ça nous plaît bien. Il vient de placer une petite attaque dans cette côte et il a l'air bien. Derrière, ça ne réagit pas. C'est peut-être très bien joué de la part de Romain Bardet. On rappelle qu'il n'y a plus qu'une 16 entre le peloton et les 5 échappés. et Moritz justement qui lâche, Ryan Gibbons également du côté des échappés, ça va mal, et du côté de Romain Bardet ça va plutôt bien. Et si on l'avait, notre première victoire française dès le premier jour, ça serait pas beau ça.
36 km de l'arrivée, nous avons un Français en tête accompagné de l'un de ses équipiers, et ce Français c'est Romain Bardet. Romain Bardet qui semble avoir ses jambes de 20 ans aujourd'hui dans cette première étape du Tour de France.
RMC, la flamme rouge.
Les deux hommes vont-ils réussir à garder ne serait-ce que 1 ou 2 mètres d'avance sur l'avant-garde du peloton? Ça peut-être encore le faire. Ils sont toujours tous les deux à la bagarre, énorme bagarre que livrent Van den Broek et Bardet. Mon cher Pierre-Yves,
quel suspense incroyable! Heureusement, ce sont deux hommes de la même équipe, donc ils vont pas se regarder jusqu'au bout. Ils vont y aller, ils vont aller à fond au maximum pour essayer de faire la lutte avec ce qui reste du peloton. Et Rui Costa qui emmène derrière le peloton et les sprinteurs, ceux qui ont les plus grosses cuisses. Les gros sprinteurs ne sont plus là, ils ont été lâchés depuis longtemps dans cette terrible première étape du Tour de France 2024. Ils sont deux, Frank Van den Broek avec Romain Bardet dans sa roue. Ils n'ont plus que 500 mètres encore à parcourir, 250 mètres désormais même. Ils vont peut-être le faire.
Mais oui,
allez Romain, il faut y aller. Romain, il faut y aller, il faut essayer de sprinter. C'est très important maintenant, il ne reste plus rien parce qu'il y a Wout van Aert qui est derrière.
Mais
et
oui,
la victoire de Romain Bardet devant Van den Broek. La victoire française ici, le maillot jaune. Wout van Aert s'est battu. Yes. Le match France-Belgique est remporté par la France, Christophe.
Incroyable finale, on a été trompés. On croyait qu'il restait encore 250 mètres alors qu'ils étaient là, sur la ligne d'arrivée. Cyril, c'est énorme ce que viennent de faire les deux hommes qui ont été au bout de leur force et qui sont épuisés, évidemment. Mais alors, la récompense est là, évidemment.
Oui, c'est... c'est vraiment très, beaucoup d'émotions. C'est extraordinaire ce qu'ils ont réussi à faire.
RMC jusqu'à 20h,
l'After Tour.
Ah mon Cyril, il nous met les poils comme ça, avec cette émotion. Il aime pas qu'on le mette comme ça. Mais non, l'émotion du sport, l'émotion que nous procure ce genre de champion, il faut se laisser faire, il faut se laisser aller. Hein, voilà. Sure. Quoi.
Mais il avait bien dit qu'il rêvait qu'après la ligne.
Oui,
commencé à rêver après la ligne.
Il a commencé à pleurer surtout après la ligne. Il n'a pas voulu rêver et derrière il a pleuré. Cyril,
mais attends, explique-moi pourquoi vous ne pleurez jamais.
Mais parce que
tu es dur.
Tu tues nos espoirs à 35 km de l'arrivée.
En fait, vous n'éprouvez aucune émotion.
Tu nous as dit qu'il n'irait jamais au bout, Cyril.
N'importe quoi.
Il refait l'histoire. Cyril, raconte-nous les relations que tu entretiens avec Romain Bardet, qui a été l'un de tes coureurs lors des épreuves de championnat du monde, coureur de l'équipe de France, qui a bien failli justement aller décrocher un titre mondial. C'est un garçon attachant, même s'il est toujours un peu sur la réserve. C'est pas le même genre de garçon que Thibaut Pinot, que Julien Alaphilippe, mais il n'en demeure pas moins très attachant.
Oui, et il faut passer du temps avec les gens pour arriver à les comprendre. Et c'est vrai que sur les champions du monde, c'était un endroit absolument idéal, où il y avait beaucoup de tensions aussi, parce que c'est un championnat du monde. Et un championnat du monde, qu'est-ce qui se passe? Vous mettez dans la même équipe des coureurs qui sont adversaires toute l'année, dont certains d'ailleurs ont des rivalités profondes et qui peuvent remonter à très loin. Et il faut arriver à les mettre... à les mettre au diapason, et Romain Bardet, sur ce plan-là, a été d'une très grande régularité d'une part, mais a été aussi, avec Julien Alaphilippe, Julien qui est aussi un moteur dans un groupe, à faire en sorte que le groupe a fonctionné presque parfaitement, puisqu'on a fait deux.
Voilà, Romain Bardet, deuxième des championnats du monde. Arnaud le disait tout à l'heure, ce palmarès de Romain Bardet, il y a quelques grandes victoires, son quatrième succès sur les routes du Tour, mais il y a surtout beaucoup de deuxième place. Oui. C'est une sorte de nouveau Poulidor, même si là aujourd'hui, à la différence de Poulidor, il est en jaune pour la première fois de sa carrière.
J'avais pas actualisé la statistique très honnêtement depuis, je crois, Liège-Bastogne-Liège, mais il en était à 52e place au moment de Liège-Bastogne-Liège. Enfin, c'est juste une folie en fait d'imaginer le palmarès que ce garçon aurait eu. Et il y en a eu quand même sur des très très belles compétitions. Hein. Bon, on parle des championnats du monde. Il y a eu des étapes sur le Tour de France où il a terminé deuxième. Ma mémoire est bonne. Donc oui, c'est vrai que c'est un vrai coursier. On a toujours dit que Romain Bardet était un énorme coursier, que c'était un énorme coureur tout simplement. voilà, il n'a pas toujours réussi à la mettre au fond, mais quand même, quand tu regardes son palmarès et ses victoires, il n'y en a pas une à jeter. Hein. Mais, et souvenez-vous quand même qu'il fut un temps, pendant plusieurs années, il n'a pas gagné.
Oui, oui, il a pas gagné. C'est vrai qu'il a un profil qui n'est pas facile. C'est un très bon grimpeur, mais voilà, quand tu joues le podium du Tour, tu tombes sur des excellents grimpeurs. Il a connu Chris Froome notamment, donc c'est jamais facile. Romain Bardet, là où il met pote, c'est qu'en amateur, c'était un très bon coureur. Rien à dire, tu passes pas chez les pros, c'était pas un bon amateur, mais c'était de loin pas celui qui avait le plus gros moteur. Par contre, c'est vraiment celui qui l'a, je pense, le plus optimisé. Par exemple, si je compare avec un Thibaut Pinot, je pense qu'intrinsèquement, Thibaut est plus fort que Romain, mais par contre, Romain, il fait tout à 120%. Et moi, j'adore ça. Alors, Cyril, il va dire qu'il y a beaucoup de data, etc., mais il a tout optimisé, des stages en altitude, la nourriture, il a vraiment utilisé 120% de son potentiel. Et là, il est récompensé par un maillot jaune, je trouve ça extraordinaire. Et puis, voilà, l'histoire est belle avec le petit jeune qui, lui, participe à son premier tour, Romain son dernier, et ils font un et deux, c'est quand même joli.
Et bien aidé, tu parlais d'optimiser le potentiel, bien aidé par cette équipe DSM Firmenich qui vraiment ne laisse rien dépasser. C'est une équipe qui optimise tout au maximum dans la façon de faire, dans plein de choses comme la nutrition, tout ce que les grandes équipes font aujourd'hui, mais eux, c'est vrai que c'est encore plus poussé avec cet esprit allemand et néerlandais, Jérôme.
Quand je t'entends, Jérôme, j'ai l'impression que c'est un besogneux, Romain Bardet, mais c'est un besogneux qui a la classe quand même.
Bien sûr.
Quand on remporte pas quatre étapes du Tour de France.
Non, bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y en a intrinsèquement qui ont plus de talent à la base, et je pense que Romain en fait pas partie. Il a énormément de talent, tous les coureurs pro ont de toute façon du talent à un moment donné, mais lui, il a réussi à optimiser vraiment 120% de son potentiel, et ça par le travail, par des stages en altitude qu'il a fait bien avant que ça soit entre guillemets à la mode, la nutrition, il s'intéresse à tout, il est ultra intelligent, il va tout chercher, il parle anglais, donc il lit beaucoup d'études anglo-saxonnes, etc., bien avant que tout ça soit un peu popularisé maintenant. Mais oui, c'est un besogneux, c'est clair. C'est-à-dire, les entraînements qu'il fait, les stages en altitude, il part énormément de temps loin de chez lui, il a quand même un enfant aussi, et voilà, bien sûr que c'est un besogneux. Et d'autres coureurs, j'adore Thibaut Pinot aussi, mais je pense qu'il n'a pas optimisé tout le potentiel qu'il avait.
Alors on fera le comparatif tout à l'heure entre Thibaut Pinot et Romain Bardet, qui sont indissociables pour moi, parce qu'ils ont été les deux grands rivaux du cyclisme français. On a essayé de monter d'ailleurs leur duel en épingle, alors que finalement ils s'entendaient plutôt bien, même si leurs caractères sont... Ah, Cyril n'a pas l'air convaincu quand je dis qu'ils s'entendaient super bien. Tu
non, mais moi j'aime les passages où il n'y a que des fleurs pour tout le monde.
Ah.
Donc je suis désolé, il n'y a pas que des fleurs pour tout le monde. Mais vous inquiétez pas, je ne mettrai pas d'épines.
Ben si, justement, tu es payé pour ça. Hein,
Comment ça?
Tu es payé pour mettre des épines un peu partout.
Non.
Pour crever les roues des coureurs.
Par exemple, quand vous dites que Romain, il était en avance sur tout. Bref, je veux bien. C'est quand même le seul qui critique de façon ouverte aujourd'hui ce qui se passe dans les équipes et ce qu'on vient de dire. On pèse la nourriture, les ordinateurs de bord.
Mais tu crois qu'il ne le fait pas?
Oui, mais je ne dis pas qu'il ne le fait pas. Mais aujourd'hui, il est en train de remettre ça en cause.
Mais il le critique parce que ce n'est pas son vélo.
Oui.
Pas le vélo qui lui plaît.
Oui,
il ne dit pas forcément que ce n'est pas...
Mais il te dit quand même, si j'avais 18 ans aujourd'hui, je serais obligé de le faire, donc je le ferai.
Ben voilà.
Mais ça ne veut pas dire que ce qui se passe aujourd'hui est bien. Mais qu'il lui l'ait fait à titre personnel, c'est parfait. Mais c'est lui qui le décidait. Ce n'était pas imposé.
Oui, mais maintenant, tu n'as plus le choix.
Tout est imposé.
Mais bien sûr, mais tu n'as plus le choix.
Mais c'est formidable, la liberté.
Mais non, ce n'est pas une histoire d'être imposé. C'est que si tu veux être au haut niveau, tu n'as pas le choix que de faire ça. Tu n'as pas le choix que de prendre tes glucides. Tu n'as pas le choix que de faire des stages en altitude.
Parce qu'avant, on ne bouffait pas de glucides.
Mais si, mais maintenant, c'est cadré.
Et ben, donc, tu ne peux plus être Thibaut Pinot aujourd'hui.
Non.
On peut plus avoir de Thibaut Pinot aujourd'hui.
Non, je pense pas. Le côté tout instinctif n'existe plus dans le vélo. Et
on voit ce qu'il a dit. Je me fais plaisir parce qu'à chaque fois que je cours à l'instinct, que j'ai pas l'oreillette dans le machin.
Mais je suis d'accord avec toi. Bon,
et il te dit, à chaque fois que je cours à l'instinct, donc sans les hurleurs dans la bagnole, il réalise des exploits.
Ben oui, mais ça, c'est en train de se perdre.
Et au championnat du monde, quand il fait deuxième, il n'y avait pas d'oreillette non plus.
Regarde regarde le camion de... On en parlera sûrement, peut-être pas dans ce podcast, mais tout au long du Tour.
Mais je ne sais même pas s'il faut en parler de ces trucs-là.
Le camion data de Visma Lease a Bike, mais on va vers la Formule 1. Tout va être cadré, tout va être calculé, c'est comme ça. Et le vélo...
Mais tu veux quand même pas comparer la F1.
Mais
c'est la voiture qui fait le classement et pas le pilote, quoi.
Bah maintenant c'est le vélo.
Maintenant d'ailleurs ça c'est vrai. Aujourd'hui les coureurs sont obligés de dire j'ai le vélo qui va le plus vite. J'ai jamais vu un vélo gagner une course tout seul, moi.
Très bien, on va évidemment continuer ce débat enflammé. On va tout d'abord écouter la première réaction de Romain Bardet tout à l'heure, sitôt la ligne d'arrivée franchie, avec ce maillot jaune sur les épaules. Il lui va à ravir, Romain Bardet.
Comme quoi, dans le vélo, il y a encore des moments inattendus qui se passent. C'était sublime. Voilà, on a attaqué le tour avec un super état d'esprit. C'est la première fois où je souris avant le départ d'un Tour de France. Et de ne pas faire le général, ça m'enlève une pression énorme. Et je suis enfin moi-même. Et courir sans arrière-pensée, c'était fabuleux parce que voilà, j'ai eu l'instinct. Je ne connaissais pas vraiment le parcours, mais j'ai eu l'instinct. Je voyais beaucoup de coureurs souffrir et je me sentais vraiment bien. Je savais qu'on avait Franck qui était très fort devant. J'ai dit, allez, de toute façon, j'ai rien à perdre. Au pire, je perds 20 minutes et c'est terminé. Et j'ai dit, on y va. Et puis après, Franck était super fort. Je crois que ça l'a remotivé aussi que je vienne devant. On a vraiment décidé de rester tous les deux. Et honnêtement, il le mérite autant que moi parce qu'il m'a tiré sur le plat à la fin. C'est vraiment un grand talent. Et ouais, j'ai pas les mots, je réalise pas encore en fait ce qui se passe.
Voilà, ce qui est assez paradoxal, c'est que Romain nous dit c'est la première fois que je ne vise pas le classement général, et finalement c'est la première fois qu'il a le maillot jaune sur les routes du Tour. C'est quand même assez énorme ça, mais est-ce que s'il avait visé le général, justement, il serait en jaune ce soir?
Ben non. Ben non, il serait resté au contact du groupe Pogacar, bien sûr, et c'est pour ça, je pense, qu'il est passé si souvent proche du maillot jaune sans le prendre, parce qu'il était toujours trop proche pour avoir un bon de sortie, et il n'arrivait jamais à prendre le maillot jaune. Moi, ce qui me marque plus dans son interview, c'est quand il dit c'est la première fois que j'arrive au départ du Tour en souriant.
C'est terrible. Il y a des paroles qui sont terribles,
mais
en fait.
Mais bien sûr. Mais si vous saviez le nombre de coureurs qui arrivent au départ du Tour, c'est quand même la course qui fait rêver tous les passionnés de vélo et qui arrivent, qui n'ont pas vraiment le sourire parce qu'ils savent que c'est dur, la pression, etc. Il y en a plus que ce qu'on croit.
Il dit à 33 ans, je peux être moi-même.
Ouais.
Mais
c'est bien pour ça que j'ai poussé mon coup de gueule tout à l'heure. C'est qu'il y a des paradoxes qui sont énormes. Et c'est vrai que si on prend le parcours de Romain, et pour avoir commenté tous ces Tours de France ici, sur RMC, c'est un coureur qui avait beaucoup trop... Et à qui on mettait beaucoup trop de pression.
Comme on a mis beaucoup de pression à Thibaut Pinot.
Hein, non, Thibaut avait beaucoup moins de pression.
Coureur français, leader dans une équipe française sur un Tour de France, t'as une pression qui est énorme.
C'est pour ça que Thibaut voulait plus venir faire le Tour de France.
Oui, mais
comme Romain. C'est pour ça que je trouve que
Thibaut Pinot est quelqu'un... Attendez.
À qui on met pas la pression?
Si, tu veux la mettre. Mais il a une grande partie de la pression qui part dehors. Hein.
Ouais, c'est peut-être l'impression qu'il te donne, je ne suis pas sûr.
Et la pression sur David Gaudu, mais on en reparlera peut-être tout à l'heure.
Oui. Bah, il n'a plus de pression, là.
29 minutes, il a perdu.
C'est la dépression.
Oui.
Ouais.
Juste un petit mot sur Bardet par rapport au fait qu'il ait eu un bon de sortie aussi. Moi, j'en ai parlé avec Warren Barguil, donc son coéquipier français chez DSM, qui est d'ailleurs son compagnon de chambre également pendant ce Tour de France. Clairement, il y a eu un instant dans le peloton où on s'est dit bon, Bardet s'en va, vas-y, va-t'en, oui. Va-t'en, mon Romain.
Il y a quelques années, plus tard. Jamais on l'aurait laissé partir comme
et
ça.
Et c'est pour ça que l'écart a quand même augmenté.
Ah, il a mis une minute en quelques kilomètres.
Une minute en moins de 4 kilomètres.
Le peloton n'y a pas cru. Et ça a certainement. En tout cas, ils n'ont pas cru dans un premier temps. Et ça a certainement permis à Romain Bardet de pouvoir jouer cette carte-là.
Oui, ils s'en foutaient complètement de Romain Bardet. Il faut appeler les choses par leur nom.
Oui, oui.
Pour eux, aujourd'hui, Bardet n'est pas.
Enfin, pour les favoris. Mais pour la victoire d'étape, il y en avait quand même.
Oui, mais là, pour la victoire d'étape, il fallait essayer de faire passer les sprinters ou semi-sprinters. Mais pour les favoris du Tour de France. Bardet ne représente pas un danger. Il y a plus de 50 km de contre-la-montre, ça fera 5 minutes.
Oui.
Bah oui, non, mais les gens y réfléchissent aussi un peu de temps en temps. Donc Bardet qui sort, qui n'a pas beaucoup d'animosité dans le peloton, qui est plutôt bien accepté, même très bien, qui est respectueux de tout, il sort, si ça marche, si ça marche pas, et puis bon, il reste encore plus de 30 km. Et puis il y a ces moments de rupture, parce que ça on n'en parle pas assez, mais vous avez ces mouvements ces moments de rupture, de concentration collective du peloton où les mecs qui sentent bien les coups, si tu sors à ce moment-là, tu t'en vas. Mmh. Et ça ne réagit pas derrière.
Alors, Romain Bardet, évidemment, son histoire avec le Tour, son histoire avec le cyclisme est très longue. Il nous a fait vibrer. Cyril en parlait il y a quelques instants. Pierre-Yves, tu vas nous rappeler quelques-uns de ces moments de grâce qu'il nous a fait vivre sur la route du Tour. Moi, j'ai évidemment en mémoire cette victoire à Saint-Gervais. C'était la plus belle, hein, l'une des plus belles. Il y en a eu d'autres.
Oui, mais c'est vrai que notre histoire commune avec Romain Bardet, c'est un peu un album photo, hein, pour son premier Tour. Il y a 11 ans, le petit gars de Brioude termine premier français alors que son leader, Jean-Christophe Perrault, a abandonné. Et on découvre un leader pour une décennie. Deux ans plus tard, rejoint, vous vous en souvenez aussi, dans la montée de Mende par Thibaut Pinot, les deux grands espoirs s'observent pour savoir qui va l'emporter. Et puis il y a Steve Cummings qui revient pour leur souffler la victoire. Bon, ouais, cette fois, la photo, elle est un peu ratée, mais on la garde malgré tout. Quelques jours plus tard, Romain s'enfuit dans le Glandon, dessine sa victoire dans les lacets de Montvernier et s'impose à Saint-Jean-de-Maurienne. L'année suivante, c'est déjà une histoire d'équipier qui permet à Bardet de gagner à nouveau sur le Tour. La photo, elle est avec Michael Schirel, son ami, qui lui permet de revenir sur Rui Costa en tête de la course. Et c'est en 2017 qu'on imagine que le garçon de Brioude peut gagner le Tour de France. Et s'il n'y avait pas eu Froome, peut-être que Bardet, qui s'impose une nouvelle fois dans le mur de Péragude, aurait fait mieux que troisième du général. Et puis encore deux, trois clic-clac en 2018 avec une deuxième place au championnat du monde derrière Valverde, avec le maillot à pois sur le podium du Tour 2019, ou encore une deuxième place sur Liège-Bastogne-Liège il y a quelques mois. Mais la plus belle photo, Christophe, ce sera celle du jour, évidemment, en jaune sur le podium à Rimini. Un objectif de carrière dont Romain Bardet le disait tout à l'heure avait fait totalement le deuil.
Ouais, franchement, après ça, tu peux mourir tranquille, comme dirait l'autre.
Hein. Le plus tard possible.
Hein, le plus tard possible, mais bon, c'est vrai que pour un coureur cycliste, quatre victoires d'étape sur les routes du Tour, un maillot jaune, la boucle est bouclée. Et le Tour ne fait à peine que commencer, parce qu'il a évidemment d'autres objectifs maintenant. On va en parler. Pour vous, c'est quoi le plus beau souvenir que vous gardez de Romain? C'est celui d'aujourd'hui ou il y a eu d'autres moments de grâce dont Pierre-Yves nous rappelait?
Moi, je pense que le plus grand moment, c'est aujourd'hui. Parce qu'il a fait de beaux exploits, et Pierre-Yves vient de le... Mais il n'a jamais dégagé une très grande émotion dans ses exploits. Parce qu'il n'est pas extraverti, il parle calmement, même un peu bas. Donc ça crée pas les éléments nécessaires pour créer une émotion qui fait qu'on va retenir une image. D'ailleurs, lui-même ne donne pas d'image. Et c'est la première qu'il donne aujourd'hui.
Mmh, c'est vrai. Ouais. La comparaison avec Thibaut Pinot. Thibaut Pinot a toujours été plus populaire que Romain Bardet. Est-ce que vous trouvez ça injuste? Leur palmarès se ressemble quand même. Il y a peut-être plus de victoires sur les courses d'un jour pour Thibaut, notamment dans le Tour de Lombardie, évidemment, qui est sans doute l'un de ses plus beaux succès. Mais évidemment, auprès du grand public, Arnaud, Thibaut a toujours été au-dessus de Romain Bardet. C'est dû justement peut-être à ce manque d'émotion, à ce discours assez cadré, finalement. Finalement,
c'est peut-être ce qu'on expliquait avec Jérôme tout à l'heure. Finalement, c'est ce côté, il optimise tout. On a le sentiment. Je crois qu'on s'était déjà posé la question d'ailleurs avec Jérôme. On avait dit voilà, on a l'humain Thibaut Pinot et on a le robot Romain Bardet. Et c'est peut-être ça finalement qui fait que le grand public s'est moins identifié à Romain Bardet. Mais j'attends quand même de voir, parce que bon, Thibaut Pinot, c'est exceptionnel de toute manière. L'aura qu'il a pu avoir, elle dépasse même le simple cadre des coureurs français. Mais je pense quand même que...
Mais l'aura peut-être due à ses grandes défaites.
Oui,
mais
voilà.
C'est ça.
Voilà.
En fait, pourquoi Romain Bardet est moins populaire que Thibaut Pinot? Parce qu'en fait, il n'est jamais passé au travers d'aucune de ses courses, Romain Bardet.
À part 2019. En 2019, il gagne le maillot.
Il est toujours là. Il est toujours là, il pète jamais. Que Thibaut, il nous a fait vivre des émotions magnifiques.
Ouais, c'est le perdant magnifique. Russes,
et puis il soulève les foules. Mais en fait, Romain, il est tellement régulier tout le temps même quand il passe au travers, il fait 10e du Tour, il fait 9e. Il explose jamais complètement. Et puis, moins spectaculaire que Thibaut Pinot. Moi, le meilleur souvenir pour l'instant que je vais garder de Romain Bardet, c'est aujourd'hui parce qu'il gagne sur une étape qui n'est pas du tout. Enfin, pas du tout, qui n'est pas vraiment faite pour lui, et il ne la gagne pas à la Romain Bardet, c'est-à-dire en haut d'une bosse, enfin, type Péragude, voilà, une étape où il était cité parmi les favoris. Là, j'aimerais bien savoir sa cote au départ, mais même pendant l'étape, jusqu'à ce qu'il attaque, on n'a jamais parlé de Romain Bardet aujourd'hui. Ouais. Jamais, jamais, jamais. Et encore moins avec les 25 km de faux plat descendant et de plat qui restaient à la fin. Donc pour moi, c'est de loin la plus belle qu'il a remportée.
Alors que peut-être que l'image qu'on gardera de Thibaut Pinot, c'est à sa cuisse, ses bandages, les ciseaux qui coupent,
sa descente
du vélo, là où on pense qu'il peut gagner le Tour. Ce sont deux images très différentes, mais je suis persuadé qu'aujourd'hui, la France du vélo, les passionnés de cyclisme sont très très heureux de voir Romain Bardet et sa carrière couronnée par ce succès.
Et on espère que le fan club de Romain Bardet va faire un virage Bardet.
Ils en ont parlé.
Au Durand, pourquoi
lui, il n'est pas hyper motivé
à l'idée. Il n'est pas hyper motivé, mais ils en ont parlé.
Mais ça aussi. Non, mais c'est vrai.
Ou alors, un coup à la Cosne 3 avec la promo en haut d'un col.
Ce sera plutôt du vin rouge. Il est très amateur de vin rouge.
Oui. Et connaisseur d'ailleurs.
C'est un bon fêtard à côté de ça. Contrairement à l'image qu'il renvoie, quand il débranche, il débranche. Il fait tout à fond.
Là, on va avoir des anecdotes.
Ah ouais.
Alors,
vas-y, balance.
Toi, ta photo avec lui, c'est quoi alors?
Non, mais c'est un bon vivant. Des fois, il renvoie cette image un peu de personne lisse et toute simple. Non,
un télo, un peu, voilà, l'image
ouais,
de
alors,
télo.
Ça n'empêche pas d'être un télo intelligent et de faire le con à côté. Donc, il sait faire les deux. Mais quand il fait le job, il fait le
mais
job.
Mais quand il fait le con, c'est intelligent.
Aussi, de manière intelligente. C'est peut-être pas le cas de tout le monde, d'ailleurs. C'est vrai.
Alors, cette victoire, il la doit, il le disait tout à l'heure dans son interview, il est en grande partie à son jeune équipier, Frank Vandenbroek, je ne sais pas comment on dit, mais bon, comme il y a déjà eu un Frank Vandenbroek, on va l'appeler
Vandenbroek. C'est l'autre VDB. Hein. Voilà, mais l'autre il en rit, hein, d'ailleurs, hein, parce qu'évidemment, on lui parle de Frank Vandenbroek.
Ça ne s'écrit pas tout à fait pareil.
Voilà, exactement. E-O-E-K.
Ouais. Sacré jeune coursier, 23 ans, premier tour. Il a été énorme, Cyril.
Et première victoire.
Et première.
Oui, son premier tour. Il arrive pour la gagne, il fait gagner son leader.
Ouais. Et puis il est monté sur le podium. Il est monté sur le podium à 15 reprises.
Trois fois. Le combatif, le maillot vert et le maillot blanc.
Voilà. Jérôme, tu peux nous en dire un mot de Vandenbroek? Tu le connais un peu? Ou alors c'est une découverte pour toi aussi?
Non, alors à ce niveau, oui, c'est une découverte. En amateur, il a quand même bien marché. Cette année, il a quand même gagné le Tour de Turquie. Alors, c'est
que
pas,
tu connais bien.
Voilà, je connais bien. C'est pas le Tour de France, mais quand même, pour sa première année pro, il gagne le classement général d'une course par étape. Honnêtement, je ne l'attendais pas à ce niveau dès la première étape de son premier tour. Franchement, bien sûr que Romain Bardet doit sa victoire à son coéquipier parce que sur le plat, Romain, il avait du mal à garder les roues de temps en temps. Hein. Et je pense même à la fin que s'ils doivent se disputer la victoire tous les deux, je ne suis pas sûr que Romain soit capable de le déboîter pour gagner l'étape tellement il était fort.
Je suis même sûr que non.
Donc, le vélo, c'est un sport d'équipe, on l'a dit. Il est très surprenant et je pense qu'on n'a pas fini de le voir pendant les trois semaines.
Tu étais d'ailleurs circonspect quant à au scénario de la fin d'étape, Cyril, tu n'as pas voulu donner ton avis de directeur sportif pour savoir si Vandenbroek devait
d'abord
laisser...
D'abord parce que je ne suis pas payé comme directeur sportif.
Mais non, mais t'es payé
sinon,
comme consultant.
Sinon, tu serais sous mes ordres.
Payé comme consultant. Non,
alors que c'est l'inverse. T'es encore mieux payé qu'un DS. Tu peux donner des infos quand même.
Donc, est-ce que tu penses qu'il a reçu des consignes ou que ça s'est fait de manière naturelle? Il a laissé gagner son leader.
Ah, parce que c'était la question.
Ouais.
Oui. Moi, je pense que c'est beaucoup plus compliqué que ça, cette situation. C'est pas tu donnes un ordre ou tu le... Bon.
Souvent, en matière de course automobile, c'est ce qui a été fait.
Oui, mais justement, je disais tout à l'heure que le vélo, c'était pas l'automobile, surtout au niveau des datas. Parce qu'il y a un être humain qui est aussi libre de faire ce qu'il veut sur son vélo.
Bon. Pas en voiture.
Non, en voiture, non. Tu le sais très bien, d'ailleurs. Ou alors,
comme il conduit,
ou alors t'écoutes pas... ou alors tu sais pas comment se passent les Grands Prix ou tu ne les suis pas. Une chose est certaine, il y a quelque chose qui se construit au fil de l'étape. Vous avez un coureur qui est parti depuis le départ, qui a d'ailleurs chassé pratiquement tous les coups qui sont partis, et il y avait déjà Romain qui suivait les coups de départ. Et puis il y a un coup qui est parti sans Romain et qui est donc parti avec Vandenbroek.
Parce qu'il l'a expliqué, il faisait un sur deux, en fait.
Voilà.
Une fois, c'était lui, et une fois, c'était...
Mais c'est plus souvent Vandenbroek. Hein.
Ouais.
D'abord, parce qu'il a plus de giclettes, voilà. Bref, peu importe, il y avait la volonté, il y avait l'état d'esprit. Le coup part, bon, OK, c'est parti, un coup de costaud, en plus, avec des coureurs solides, et qui passaient bien ce genre de difficultés. Ça s'est un petit peu épaillé parce que le parcours était très difficile. Et puis, quand on arrive donc à l'avant-dernière ascension, on sait déjà que l'échappée pratiquement n'ira pas au bout. Donc là, il sort. Vandenbroek se laisse décrocher, le prend et le ramène jusqu'au sommet. Lui permet de récupérer. Mais à partir de ce moment-là, il y a une complicité qui se fait avec les deux hommes. Et le directeur sportif, s'il arrive et qu'il donne un ordre, c'est lui qui gagne ou c'est lui qui gagne, qui vous dit que l'autre va continuer à rouler.
Ouais. Ce sera intéressant de poser la question, à savoir s'il y a eu des consignes d'équipe données.
Il y a des consignes, mais c'est...
Je pense qu'ils sont surtout concentrés à essayer déjà d'arriver à la ligne, d'arriver devant. Parce que c'était finalement... je ne suis pas sûr qu'ils aient eu ces discussions à dire toi. Et après, je pense que
C'est pas comme ça que ça se passe exactement.
Non, ouais.
Tu sais, c'est beaucoup plus...
naturel. Mais je pense que ça s'est fait de manière naturelle.
Voilà, il y a des choses qui se passent naturellement. Le jeune, à la limite, il se dit je suis peut-être plus costaud. D'abord, au départ, il n'est pas obligatoirement plus costaud, parce qu'il vient de se faire quand même déjà 180 bornes devant, parce que c'est parti au 16e kilomètre. Et donc, il va jusqu'à l'arrivée, il y en avait 206. Est-ce qu'il va coincer, pas
mais
coincer.
En plus, il a dit que dans la dernière bosse, il était un peu moins fort que Romain et qu'après, il était plus. Donc voilà, finalement, ça s'est
Romain
un peu
disait,
fait.
Voilà, ouais, je voulais garder Vandenbroeck avec moi dans les bosses.
Dans la descente, il allait plus vite.
Et puis
également
après, il y a quand même le respect des anciens, du leader, etc. Il connaît aussi l'histoire de Romain Bardet.
Il y a
qu'ici
qu'on n'a pas le respect des anciens, en fait.
Non, c'est
un Cyril.
Mais vous n'avez pas le même palmarès non plus.
Je ne dirai rien sur cette affaire, mais on se retrouvera au barreau.
Très bien, on va continuer d'évoquer, faire le bilan de cette première étape. Donc victoire de Romain Bardet qui est en jaune ce soir et qui va donc porter pour la première fois de sa carrière le maillot jaune sur les routes du Tour demain lors de la deuxième étape. Dans un instant, on va parler des autres Français et on va parler de cette bagarre pour le général qui n'a pas eu lieu finalement. Peut-être demain dans la côte de Saint-Lucas que Arnaud Souk connaît bien. On est ensemble évidemment encore quelques minutes dans, non pas l'intégrale, mais dans l'After Tour sur RMC.
RMC, 19h-20h, l'After Tour.
Christophe Cessieux.
L'After Tour sur RMC, évidemment, notre podcast que vous retrouvez en direct dans la radio numérique 100% route. Et puis, si vous n'avez pas pu l'écouter en direct, eh bien, vous l'avez en podcast dès le soir, dès 20h, avec Cyril Guimard, Pierre-Yves Leroux, Jérôme Coppel, Arnaud Souk, toute la bande est là, réunie autour de moi. On a évoqué, évidemment, le fantastique succès de Romain Bardet. Dernière petite question concernant ce maillot jaune, il peut le garder jusqu'à quand? Vous avez une idée?
Moi, je dis tout dépend de demain.
Non, il passe demain.
Mais s'il passe demain, ouais, après Pogacar, il a le droit d'aller prendre des bonifications.
Il n'y a que 15 secondes. Hein, et puis, vu le profil de demain, c'est quand
s'il
même.
S'il passe demain, pour moi, il le garde jusqu'à.
S'il finit dans la roue, enfin, ou dans le groupe où il y a Pogacar, compte tenu des 5 secondes d'aujourd'hui, il a 15 secondes sur Pogacar.
Ouais, mais il faut pouvoir tenir la roue dans la côte de San Luca, c'est pas fait encore. C'est pas une montée qui convient à son profil. Mais
écoutez, on a le droit de rêver.
Ça y est, maintenant, monsieur rêve. Non, mais c'est nouveau, ça.
En attendant, personne t'a donné de réponse.
Non, mais
moi, je vais te dire, il le perd demain.
D'accord.
Voilà, ça, c'est une réponse. Pierre, ça, voilà. Ah, on est deux. Ouais.
On ne tourne pas autour du pot comme des consultants encore. Enfin, voilà. Si, ça y est, Jérôme vient. Arnaud, il le garde ou il le perd?
Non, moi, je disais, si jamais il ne le perd pas demain, pour moi, il le garde jusqu'au bout.
Mais ce n'est pas une réponse, ça.
Si, c'est une vraie réponse.
Non, mais il le perd demain ou il le perd?
Soit il le perd demain, soit il le perd dans
une semaine.
Arrête de faire une guimard, quoi.
Soit il ne le perd pas, Cyril.
Non, moi, pour moi, il ne perd pas demain, non.
D'accord, ok. Bon, nous,
ça, mais il est seulement en train de feuilleter le livre d'or. Il ne sait pas du tout où on va demain. Non,
il le perd.
Demain, c'est l'arrivée à Turin, c'est vrai qu'il ne risque rien.
Il le perd dans la quatrième étape, normalement.
Pourquoi
à Valoire.
La quatrième?
En direction de Valoire, avec le Galibier. Pourtant, le Galibier, c'est un truc pour lui, le Galibier, non?
Pourquoi veux-tu qu'il le perde dans le Galibier?
Parce qu'il va y avoir les tempos qui vont se mettre en route.
En attendant, profitons, ça fait 62 jours qu'un Français n'a pas été en jaune. 62
jours, le dernier, c'était qui?
Mais c'était Julien Alaphilippe en 2021. Ouais.
2021, dites donc. On était jeunes, on était beaux, on sentait bon le sable chaud. Les autres Français, alors déjà, la bonne nouvelle, c'est que la pression s'envole des épaules des coureurs français, parce que dès la première étape,
malheureusement,
on ne va plus leur dire « Ah oh, les gars, à quand la victoire d'étape, la première victoire d'étape française ?» Il y a quelques années, il y a 2 ans, on avait dû attendre Christophe Laporte dans les dernières étapes. L'année dernière, ça s'était passé très vite avec le succès de Victor Laffey. Là, c'est encore plus vite, dès la première étape. Est-ce que ça enlève, Jérôme, toi qui as connu ces périodes-là, Cyril, évidemment, les Français gagnaient tout le temps à son époque.
Bah,
c'était différent. Alors qu'à ton époque, c'était quand même assez rare quand même que des Français s'imposent sur les routes du Tour. C'est une pression. Et est-ce que quand l'un d'entre vous, même s'il n'est pas de la même équipe, gagne, ça enlève de la pression aux
autres? Bien sûr. Oui, et ça enlève complètement toute la pression, parce que c'est vrai que les journalistes, c'est tout le temps à quand une victoire française, à quand une victoire française.
C'est de notre faute.
Bah, bien sûr, c'est souvent la faute des journalistes. Et quand elle tarde à arriver, ben voilà, ça met la pression aux équipes, aux coureurs français. Le 14 juillet, je vous en parle même pas. Première victoire française, un 14 juillet, blabli, blabla. Donc voilà, là, ça va détendre un peu tout le monde. Au moins, c'est fait. Et puis, rappelez-vous, dans le podcast avant le départ du Tour, moi, j'ai dit qu'il y aurait 2 à 3 victoires françaises. Donc on est déjà bien parti. Je pense qu'on va en gagner plus que l'année dernière. On a plus de coureurs pour gagner les étapes que pour le classement général. Donc je pense qu'on peut viser 2 à 3 étapes assez facilement, j'allais dire.
Assez facilement. Oh, monsieur,
ouais,
est optimiste.
Franchement, on peut en avoir au moins 4, je pense.
Mmh. D'accord.
Je voudrais revenir sur petit échange tout à l'heure. Là. Messieurs les journalistes, dites, ah ben, c'est la faute des journalistes.
Oui.
Vous savez que vous êtes partie prenante dans le jeu.
Oui, on pédale beaucoup.
Oui, non, vous pédalez pas. Vous dites beaucoup de choses qui influencent aussi bien les dirigeants que les coureurs. Alors, c'est une des raisons pour lesquelles je ne lisais pas les journaux.
Oui. C'est vrai qu'en général, les journalistes nous disent, les sportifs nous disent, je ne lis pas les journaux jamais. Et puis après, on leur pose une question et puis une...
Ah oui, j'ai vu ça l'autre fois.
J'ai vu ça.
On m'a dit ça. C'est souvent l'entourage qui vient raconter en déformant.
Vous faites partie du théâtre.
Bien sûr.
Désolé.
Alors, parlons quand même des autres Français. Alors, Valentin Madouas a fait son boulot. Franchement, il était dans l'échappée matinale. Il a tenu bon. Il était parmi les derniers. Malheureusement, Arnaud, il a craqué dans l'avant-dernière ascension lorsqu'il a été rejoint par...
Il craque,
par Romain.
En tout cas, de ce qu'il disait. Et moi, c'est un petit peu la sensation que j'en ai eue aussi sur la course. Il craque parce que je pense qu'il se bat un petit peu pour le classement du meilleur grimpeur. Je suis pas sûr qu'il aurait craqué aussi facilement s'il avait pas autant donné. À un moment, il s'est vraiment mis dans le rouge justement pour aller chercher des points. Et bon, voilà. Est-ce que son final aurait été différent? On n'en sait rien. Mais en tout cas, il avouait qu'il s'était vraiment mis dans le rouge en allant chercher le grimpeur.
Après, on peut pas lui reprocher, parce qu'au moment où il joue les points, il pense pas que l'échappée va aller au bout. Par contre, il lui manque pas grand-chose pour basculer finalement. Le maillot pour basculer avec Bardet et Vandenbroek. Et là, après, c'est de la patinette. Hein. Il en a deux de la même équipe. Il est pas obligé de rouler. Mais... il va assez vite au sprint. Mais bien sûr qu'il a peut-être laissé 2-3 cartouches.
C'était frappant quand même sur les derniers points qu'il va chercher. Mais il en met beaucoup.
Ouais,
beaucoup
il en met beaucoup pour.
Pour pas grand-chose.
Ouais, au final pour pas grand-chose.
Il
mais on savait pas aller plus loin.
Décrocher exactement. Les deux derniers points qui lui auraient permis d'avoir le maillot à poids.
Bon. Mais bien sûr, au départ. La plupart de ceux qui étaient dans l'échappée, c'était pour faire les points et pour avoir le maillot à poids. Donc on peut lui reprocher, bien sûr, après coup, c'est facile de dire il a laissé des cartouches et puis il aurait pu gagner l'étape. Voilà, maintenant, il lui a pas manqué grand-chose pour basculer. C'est dommage parce qu'après, c'était vraiment de la patinette.
Et d'ailleurs, puisqu'on parle du maillot à poids, Romain Bardet a livré sa stratégie première. C'est ce maillot.
Chercher des points.
Ouais, donc on va le revoir très certainement pour quand il faudra passer du jaune au poids.
Voilà. Mais bon,
pour l'instant, il a marqué 3 points.
Oui, il n'a pas marqué beaucoup de points. Il est plutôt en jaune qu'à poids ce soir, Romain Bardet. Alors, Madouas, qui a sauvé l'honneur en quelque sorte de la Groupama FDJ, parce qu'on ne peut pas dire que le bilan soit quand même fabuleux pour la formation de Marc Madiot, qui a perdu, pour le classement général en tout cas, deux de ses leaders, Lenny Martinez, le petit jeune, et surtout David Gaudu, qui a pris un énorme
29 minutes. Si je dis pas de bêtises, il a pris 29 minutes en tout cas.
29 minutes.
Ouais, non, mais c'est monstrueux aujourd'hui ce qu'a pris David. Alors moi, je lui ai posé la question de savoir si il s'était pas laissé un petit peu glisser. Il m'a dit non, c'est juste que j'étais.
On va l'écouter tout de suite d'ailleurs. David Gaudu, donc au micro d'Arnaud tout à l'heure après cette étape qu'il termine donc avec un retard de 29 minutes derrière Romain Bardet.
Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ta journée, David? Ça a été compliqué ou tu t'es laissé?
Non, c'est compliqué. J'ai dit, je savais pas trop où j'en étais, maintenant je pense savoir. J'ai pas du tout récupéré du Covid, c'est difficile, j'ai pas de force sur le vélo. Donc voilà, on va attendre 2 jours meilleurs tout simplement. Je vais dire, je me suis accroché comme j'ai pu, mais au final voilà, ça a pas passé, ça a pas tenu. Donc voilà, il n'y a pas grand chose d'autre à dire. On va essayer de récupérer au mieux et puis voilà, au bout d'un moment ça va finir par passer, je pense, et ce serait pas mal.
ça va finir par passer. Donc ce Covid dont il parle, dont il a été victime, il y en a d'autres qui ont été victimes du Covid, et notamment Pogacar, on en parlera peut-être dans quelques instants. C'est une déception quand même pour David de le voir terminer si loin, quasiment une demi-heure de retard pour un garçon qui, il y a deux ans, terminait quatrième, qui l'an dernier visait le podium. On a l'impression que d'année en année, il passe pavillon.
C'est une déception. Parce que quand tu vois que dans le groupe, il y a encore Van Aert, Pedersen, qui sont pas des purs grimpeurs, bien sûr qu'il n'est pas à sa place, mais pour moi, c'est la meilleure chose qui pouvait arriver à l'équipe Groupama FDJ et à David Gaudu. Maintenant, on ne parle plus de classement général. S'il était arrivé à 5-6 minutes, on aurait dit oui, il va prendre une échappée, il va se replacer, il n'aurait peut-être pas eu de bon de sortie, etc. Voilà, maintenant, c'est plié, on n'en parle plus, on va chasser les étapes. Pour moi, c'est la meilleure chose qui pouvait leur arriver. Au moins, ils sont libérés déjà du classement général.
Mmh. Enfin, t'as perdu quasiment tout le monde.
Ils sont tous à l'arrivée. T'as perdu personne. Ils sont tous loin. Il y a que Madouas
qui montre qu'il est capable de faire quelque chose.
On a fait une étape. Ouais, okay, attention.
Mais enfin, tu dis c'est la meilleure chose qui pouvait leur arriver. Ils auraient peut-être pu être un petit peu plus près, quoi.
Oui, alors ok. Oui, c'est vrai que le premier, c'est pas chier. Il est à 19 minutes. Mais au moins, ils ont tous cartonné pour aller chercher des étapes.
Jérôme, tu peux pas dire que c'est la meilleure journée de Groupama.
Non, non. C'est pas ce que j'ai dit. J'ai pas dit que c'était la meilleure journée.
Alors que le premier, il finit même pas dans le premier groupe.
C'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit non. J'ai pas dit la meilleure journée. J'ai dit que c'était la meilleure chose qui pouvait arriver à l'équipe. Non, c'est pas du tout pareil.
Ça veut dire la même chose.
Non, ils ont déjà eu des meilleures journées quand ils ont gagné des étapes. C'est pas la meilleure journée, c'est la meilleure chose qui pouvait leur arriver. Comme ça, ils s'occupent plus du classement général. Alors, on n'en parle plus.
On va voir si.
On verra.
Sauf que Marc Madiot, à partir de demain, il est dernière voiture.
Non, 18e.
18e. Il y en a qui ont fait pire.
Astana, par exemple.
Ah oui, Astana, oui, d'accord.
Et qui ont un abandon, d'ailleurs.
Il est arrivé dans les délais.
Dans les délais, c'est bon. Dans les délais. Il faut encore passer demain.
Astana, Arkea, Alpecine, Total Energy et Groupama FDJ, si on remonte le classement.
Sont derrière. Lenny Martinez, un mot également. Lenny, arrivé sur le Tour. Alors évidemment, il a réalisé un début de saison exceptionnel, mais on a vu sur le Tour de Suisse qu'il était un peu limite. Il n'était pas programmé pour faire le Tour. C'est une déception pour vous? Ou là aussi, Cyril, le fait qu'il soit dégagé finalement de cet objectif de classement général, on ne lui avait jamais dit qu'il jouerait le général, mais va lui permettre peut-être d'espérer autre chose dans les semaines qui viennent?
Pour moi, il y a une faute de management, on peut l'appeler comme ça. J'avais dit bien avant le Tour.
Vous êtes content, ton disciple Marc Madiot.
Non, mais on a le droit de dire les choses. Je pense pas que Marc Madiot, au départ, il avait l'intention de le mettre. Et d'ailleurs, Lenny le dit lui aussi. En fait, il a eu des pressions familiales pour le faire. Bon, moi, je pense qu'il n'était pas prêt pour le faire. Physiquement, c'est vrai que c'est le plus gros moteur qu'on ait, surtout sur les grandes étapes de montagne. Mais il n'était pas prêt mentalement, il n'était pas prêt physiquement, il était trop jeune. C'est une erreur d'avoir pris le départ du Tour. Bon, bah écoute, il va payer l'addition.
Pourquoi trop jeune?
Mais parce qu'il est trop jeune, de la même façon que j'avais dit que Thibaut Pinot, quand il fait
Pogacar,
son premier tour...
Mais fait le tour,
c'est un débat éternel qu'on a avec les cyclistes français, ils sont toujours trop jeunes.
Mais oui.
Mais c'est pas un
problème de débat. Pogacar, Ayuso qui font des podiums sur la voie de
devant. Fignon, je suis un de ceux qui a mis le plus jeune coureur au départ du Tour et il gagne.
Mais parce que Fignon, il est trop jeune.
Fignon, il était mature physiquement, il était mature intellectuellement, il était mature mentalement.
Et pas Lenny.
Là, c'est pas le cas. Non.
Bah, vu sa première étape, en tout cas...
Non, mais déjà, il faudrait savoir si lui s'est laissé glisser ou pas. Déjà, à l'inverse de David Gaudu. C'est déjà la première chose à savoir.
Vu ce qui se passe, c'est-à-dire qu'il saute très, très vite.
Après, là où je suis d'accord avec Cyril, c'est que moi, je ne trouve pas qu'il arrive dans une bonne forme pour un Tour de France. On a vu au Tour de Suisse, tu l'as dit, Christophe, qu'il était déjà un peu dans le dur. Ça me paraît compliqué entre le Tour de Suisse et maintenant de se refaire. Alors Marc Madiot a dit les datas sont bonnes, les prises de sang sont bonnes et tout ça.
Arrêtez avec les datas.
Tous les voyants sont au vert. Apparemment pas. On va voir si.
Mais les datas, ça sert à rien puisque ce sont les vélos qui gagnent les courses maintenant. Donc,
mais bon, à voir si vraiment.
Donc il n'avait pas le bon vélo aujourd'hui.
Complètement désabusé.
Les datas yo-yo.
Les datas yo-yo, magnifique. Petite sortie de Pierre-Yves. On va s'intéresser à l'étape de demain parce qu'on n'a pas le temps malheureusement d'évoquer la non-bagarre pour le classement général entre les leaders. Pogacar, alors David Godu nous parlait du Covid, Pogacar lui aussi a eu le Covid. Je pense qu'on aura une réponse demain. Tu vas nous parler de cette étape de demain, Jérôme, qui est peut-être plus propice justement à un garçon comme Pogacar ou à des leaders du classement général qui pourraient essayer de dynamiter, chose qui n'a pas été faite aujourd'hui.
Ouais, c'est ça, elle est plus propice parce que alors, aujourd'hui c'était une étape de montagne, demain ça ressemble plus à une classique, il y a 60 km de plat au début et après on a vraiment un enchaînement montée-descente, on en a 6 à faire. C'est quand même beaucoup moins dur, hein. Il y a deux fois moins de dénivelé qu'il y a aujourd'hui. Par contre, il y a cette fameuse côte de San Luca dans les 40 derniers kilomètres que les coureurs devront franchir à deux reprises. C'est une côte qui est très courte, 1,9 km, mais très très raide. Il y a des passages à 19% et lors du deuxième passage, le sommet sera seulement 13 km de la ligne d'arrivée. Donc là, c'est une montée que Primoz Roglic, par exemple, connaît très bien. Il a gagné 3 fois le Giro d'Emilia. Pogacar a fait 2e l'année dernière, par exemple. Donc là, c'est propice à attaquer parce qu'après, c'est vraiment une descente technique pour aller à Bologne. Et là, on va pas faire des gros écarts sur cette montée-là, mais prendre 10-15 secondes en haut de la montée, plus les bonifs à la fin, et on pourrait avoir un nouveau maillot jaune. Donc je pense que demain, des coureurs comme Pogacar ou Roglic vont tenter quelque chose dans cette montée-là. Et l'année dernière, au Giro d'Emilia, dans les 10 premiers, 9 des 10 premiers sont au départ du Tour cette année. Donc c'est quand même des coureurs qui connaissent très bien cette bosse.
Elle est très connue, effectivement. Rappelons qu'il y a un bonus en plus demain au deuxième passage, donc ça va faire des secondes supplémentaires à qui voudra bien aller les prendre. Et donc dans ce contexte-là, moi j'imagine tout à fait que Tadej Pogacar puisse s'y imposer. Tu parlais de Roglic, il s'était aussi imposé lors du prologue du Tour d'Italie, si je dis pas de bêtises, 2018 ou 2019, je sais plus, enfin bref, qui avait eu lieu entre Bologne et la côte de San Luca. C'était un prologue de 8 km où il avait éparpillé la concurrence puisque le deuxième était à 19 secondes. C'est une côte qui n'est pas sans faire penser au mur de Huy, peut-être. Exactement. En un tout petit peu moins difficile, mais bon, vraiment, je prends des énormes pincettes. Et quand on voit ce que Pogacar avait mis à la concurrence l'an passé dans le mur de Huy sur la Flèche Wallonne.
Et moi, je l'ai faite, le Giro d'Emilia en 2011, et c'est vraiment une côte qui est très traître, je ne sais pas si c'est très français ce que je dis, parce qu'elle est très courte et vous avez, bien sûr, vous vous sentez bien au début, vous partez très vite et elle vous attrape et c'est très dur de terminer cette côte. Donc eux, ils connaissent ça très bien. Je pense que demain, on va avoir de la bagarre, notamment avec le petit bonus en haut.
On l'espère évidemment pour cette deuxième étape du Tour de France qui va nous conduire donc de Cesenatico, la maison, enfin là où habitait Marco Pantani, en direction de Bologne et donc de cette côte de San Luca. Merci les garçons, on se retrouve demain nous à 14h pour le direct. Non, à 13h, pardon, le dimanche c'est à 13h.
Ah oui, une on va petite... pas avoir beaucoup de temps pour le poulet dimanche midi.
Non, ni c'est poulet rapide. Ni rien du tout.
Hein. Tu prendras que les frites.
Et puis vous savez que vous avez rendez-vous aussi dès midi demain avec la radio numérique 100% route. Voilà, comme ça au moins vous serez là de midi jusqu'à 20h demain pour le Tour de France. Bonne soirée, merci messieurs. Allez bien,
ciao, ciao.
Vos pattes à Rimini sur la playa. Ciao, à demain.